Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en prenant le métro pour rentrer chez moi après le taf, je regarde comme d'habitude le panneau d'affichage associatif, histoire de savoir ce que la ville a à me raconter. Et voilà que je tombe nez à nez avec cette affiche Pompidou 2012, affiche électorale qui appelle à voter pour cet ancien président de la République, décédé pour mémoire en 1974. Le slogan de l'affiche, ni trop tôt, ni trop tard, Pompidou maintenant. Voter pour un mort, moi ça me fait plutôt marrer, surtout que j'avoue je ne sais pas trop pour qui voter cette année. Alors, canular gauchiste, candidature d'outre-tombe, pour en savoir plus, on a rencontré dans un kebab l'un des instigateurs de cette vraie fausse campagne.
Je m'appelle Régis Marie, je travaille et j'habite à Lille, je suis plasticien.
Alors comment est venue l'idée de cette campagne Pompidou 2012 ?
L'idée est née de la découverte de vieilles affiches à Emmaüs, voilà. Et là, j'ai trouvé des vieilles affiches, mais les affiches d'il y a 40 ans ne correspondaient pas du tout à l'esthétique de maintenant. Donc, c'était des affiches qu'avec des écritures, des slogans, en tout cas, c'était pas plus vent, des slogans ou des argumentations pour voter Pompidou. Réfléchissez, qui dès le 6 mai vous garantira paix, stabilité, efficacité, sécurité, c'est Pompidou, il tient ce qu'il promet. Voilà, c'était ces slogans de la campagne d'affiches, non, absolument pas le nôtre. Cette affiche est une création d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que je me suis fait chier, je me suis amusé, mais j'ai pris mon temps pour la faire, devant mon Mac, j'ai fait mon truc, hein. Et puis j'étais là, elle est bien, elle est pas bien, qu'est-ce qu'en pensent les gens, à un moment je la regarde, je m'en vais, je reviens et je dis mais putain je suis en train de faire un pastiche de l'affiche, elle s'est fait un peu promenant, ça venait juste de sortir dans la France forte, hein, on a le bleu, on a ce regard là, et puis j'étais là, et puis je dis non ça me gêne, alors j'ai dû demander qu'est-ce que t'en penses, putain j'ai l'impression de voir l'affiche de Sarkozy, et là je me disais il y a un problème parce qu'on va croire que c'est une espèce de caricature, une pastiche, en fait ça venait au même moment que tout le monde mettait la France forte, etc, la France morte, c'est là où c'était intéressant parce que c'était déjà parti sur Pompidou, donc ça fait un petit lien. Mais non, donc j'étais en vêtement de ma fiche, devant mes petits doutes, mes trucs, je suis pas sûr, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on... L'intérêt c'était de faire une affiche actuelle qui prenait place dans l'esthétique et les codes assez pauvres. Alors, bien sûr, il y a des raisons, mais en tout cas pauvres, de la PAO électorale, et voilà. Donc c'est pas une affiche qui a été reprise, ni trop tôt, ni trop tard maintenant, voilà. C'est sorti pendant une discussion, on a dit voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire, on est ni trop tard, ni trop tôt, c'est maintenant qu'on y va. Et on a dit, attends, on a trouvé le truc, quoi. Enfin, notre élan pour commencer la campagne, c'était forcément celui de l'affiche. Donc ce ni trop tôt, ni trop tard, c'est maintenant, c'est aussi un slogan intemporel qui fait que l'affiche n'est pas figée dans le temps. Ça aurait pu être effectivement un slogan d'il y a 40 ans, ça n'existait pas à l'époque, mais ça, elle est intemporelle et ça peut être un slogan maintenant, quoi. Donc c'est ça aussi cette affiche, c'est ce truc-là qui peut porter encore à confusion. Alors j'en ai parlé, etc., j'ai un peu dit, parce que tout le monde l'affiche, il y a une espèce de culte sur cette affiche. J'ai dit les choses, les gens prennent un truc, en prennent un autre, ça part, bon voilà quoi, ça m'échappe, ce qui n'est pas très gênant, mais bon, au moins voilà quoi.
Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, c'est une bonne idée, enfin, quelle était un peu la démarche au début, l'idée derrière cette campagne quoi ?
L'idée, on dit, on va prendre l'objet, puis on va le réutiliser, on va le réinjecter dans un système, là on va parler d'un système, c'est le recyclage, mais là je vais parler du système, la sphère artistique, hein, c'est le truc de base, depuis Picasso, il a commencé à ramasser ses trucs, donc voilà. Mais là où ça marchait, c'est quand on a lu quelques mots, la garantir à la paix, machin, nananana, ben je les ai trouvés super actuels, c'est-à-dire je me suis dit, mais j'accroche ça maintenant, c'est la même chose, parce qu'il y a des tracts aussi sur qui vous garantira la sécurité, etc. Mais c'est pareil aujourd'hui, on est sur les mêmes mots d'ordre, on parle de changement depuis 40 ans, mais effectivement, la façon de rassembler, les mots utilisés sont exactement les mêmes, quoi. Donc, ça m'intéressait puisque j'ai un travail à la base qui joue d'abord sur les mots, qui les réinjecte, qui les réutilise, et puis j'aime bien travailler sur la réutilisation, la réorchestration de dispositifs. Je l'ai fait sur d'autres trucs, j'ai réutilisé par exemple le dispositif sportif, foot ballistique entre autres, avec la réutilisation des gardiens, des joueurs, etc. Bon voilà. Donc l'idée c'était, j'ai ces tracts. Ça me plaît parce que c'est super actuel et c'est vieux, c'est complètement anachronique et pourtant c'est dans la modernité. il faut faire un truc avec. Voilà, c'est parti de là. C'était il y a un petit bout de temps. Après, j'ai fait autre chose, etc. L'eau a coulé sous les ponts. Et puis, à un moment, on se dit, ben voilà, il faut faire campagne.
Il s'agit véritablement de choisir entre la possibilité de continuer sur la voie du progrès, sur la voie de la sagesse, sur la voie du travail, et donc sur la voie du bonheur qui ne peut venir que du travail, de savoir si on pourra continuer en sécurité. Et cette sécurité, vous ne pouvez, nous ne pouvons l'avoir que si l'État est stable. Si nous n'allons pas de crise en crise, de bouleversement en bouleversement, de dissolution en dissolution, de renversement de majorité en renversement de majorité, et chaque fois que apparaît un spectre quelconque à l'horizon, un régime ou un gouvernement qui disparaît sous la table. Il ne faut plus revoir cela. Nous ne voulons plus revoir cela. C'est le choix du 1er juin. Nous ne sommes pas sûrs de tout faire, ni tout de suite, mais nous sommes sûrs au moins que nous éviterons le pire, et nous sommes sûrs que la France et les Français ne s'abandonneront pas et continueront sur la voie qui est celle de notre avenir et de celui de nos enfants, c'est-à-dire le progrès dans tous les domaines.
Après, là où j'ai dit il faut faire vraiment faire le projet, c'est quand j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, j'utilise Pompidou. Pourquoi Pompidou, hein ? J'ai trouvé des affiches, mais est-ce que c'est suffisant ? Non. On peut prendre des gens de droite qui, eux, instrumentalisent aussi des gens de gauche. C'est-à-dire, on a eu des élus de droite qui ont fait des discours en citant Jaurès, en citant Blum. Des gens d'extrême droite qui ont fait des affiches à un moment, Jaurès aurait voté FN, il y avait Salin Gros aurait voté FN parce qu'il a fait une préférence nationale, enfin ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, à une époque on peut pas comparer. Donc on a décidé effectivement de faire pareil, c'est-à-dire de se réapproprier effectivement une personne publique, éminente. Donc c'est ce qu'on a fait avec Pompidou, il était beaucoup plus intéressant d'utiliser quelqu'un de droite, on aurait mis Jaurès, on aurait dit c'est des ultra-gauches ou des gauchistes ou je ne sais quoi, sachant qu'en plus on n'est pas militant, notre cause c'est celle-ci, on n'a aucun lien d'inscrit dans Pompidou 2012 pour soutenir l'extrême gauche, l'extrême droite ou tout ce qu'il y a au milieu, quoi. On ne soutient rien de tout ça, on soutient notre campagne, pas plus. Mais l'intérêt de Pompidou aussi, c'était d'utiliser une image qui allait remettre de la confusion et qui révélait des pratiques utilisées par le politicien actuel, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, l'utilisation de noms, Jaurès, et qui sont pas que des noms mais qui sont aussi des programmes. Ce qui est quand même fou parce qu'on en arrive, c'est peut-être pas la seule des raisons, mais quand même, parce que ça, moi je parle de trucs Jaurès, c'était en 2007 je crois, et actuellement c'est pareil, on est quand même avec des partis qui mènent des politiques mais c'est pas une politique socialiste quoi, enfin il faut être clair, c'est pas une politique qui est là pour aider les besogneux, parce que les ouvriers, je sais pas s'il y en a encore beaucoup, il y a peut-être plus de chômeurs que d'ouvriers à l'heure actuelle, en tout cas on a plutôt des politiques qui favorisent les gens aisés, les gens riches, que plutôt les gens pauvres. Ça leur empêche pas de dire Jaurès m'aurait compris, Jaurès avec moi. Au final on en arrive à des ouvriers qui se sont déplacés vers la droite avec un esprit complètement confus. Bon, la gauche, c'est aussi... le socialisme n'existe plus. Hein. La gauche, c'est aussi une espèce de parti démocrate qui s'est coupé de sa base. Enfin, il y a plein d'explications qui peuvent expliquer ce glissement. Mais celui-là et cette réutilisation de personnages est un élément de réponse et en tout cas était un élément assez pertinent pour dire faut y aller, parce que c'est bon.
Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire ça va mal et c'est la faute du gouvernement, leur disent, vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix il revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
On est toujours en compagnie de Régis Marie, artiste plasticien. Il fait partie de ce projet participatif Pompidou 2012. Alors Pompidou, c'est un peu la racine du mal. Hein. Il peut être considéré comme l'un des grands instaurateurs et chantres du néolibéralisme, comme on a pu l'entendre dans cet extrait tiré d'une vidéo du film Volem rien foutre al país. Pompidou, c'est aussi le développement nocif de l'agriculture intensive. Et puis c'est aussi l'un des responsables de la France du tout bagnole dont on a hérité. On a demandé à Régis Marie si cette campagne Pompidou 2012 avait un fond politique pour dénoncer tout cela.
Pompidou, moi pour moi c'est pas un programme. Pompidou, c'est ce que c'est la confusion, c'est tout. C'est-à-dire que moi je connais pas l'histoire personnelle de personnelle politique, pas intime, mais en tout cas l'histoire politique de Pompidou. Ce que je peux en connaître, c'est qu'il était dans la ligne continue du général de Gaulle. C'était à la constance. Bon, il est décédé avant la fin de son mandat. Franchement, je me suis même pas attardé pour savoir quel libéralisme il a introduit, quoi. Je suis beaucoup plus énervé avec ce qu'a fait l'arrivée de François Mitterrand dans la déconstruction d'un système qui existait avant qu'avec Pompidou, quoi. Parce que Mitterrand, enfin, ça a été autant en 81, les gens y ont cru, ils croyaient que les chars russes allaient rentrer à Paris, autant que trois années après, c'était fini, quoi. Enfin, c'était la grande braderie, quoi. Ils ont privatisé, et c'est... Bon, là, on fait un peu de politique. C'est Béret-Gauvois qui a fait rentrer quand même des lois. Enfin, si vous voulez faire applaudir les traders et demander, mais pour vous, qui est l'homme politique qui a fait éminemment avancer les communes libérales, on avance un peu, c'est mon truc, mais c'est Béret-Gauvois qui a permis, avec des lois, je ne sais plus, un détrait, qui a permis la libre circulation des capitaux. Donc ça, c'est super important, puisque nanana, on en arrive au dumping social, c'est-à-dire l'argent va là où la main-d'œuvre n'est pas très chère, etc. etc. Mais voilà, donc le programme de Pompidou, ce qu'il a fait, franchement, moi je ne le connais pas trop, c'était pas la motivation, quoi. La motivation, c'était de la confusion, c'était l'effet miroir avec des pratiques politiques, c'est-à-dire ce qu'on dans la sémantique, mais aussi effectivement dans leur comportement, leur manière de discourir et d'instrumentaliser, puisque voilà quoi. La politique n'a pas d'idée, ça c'est clair et net. La politique, au mieux, stigmatise et fait des attaques de personnes, donc c'est lui, il ment plus que moi, etc. Donc voilà, on en est là dans la crédibilité des gens. Donc ça, enfin, c'est un peu triste. Quand même, quoi.
La démarche, on a bien compris, elle n'est pas politique, elle est avant tout artistique. Le but après, c'est quoi alors? Donc c'est pas de faire forcément réfléchir les gens, c'est de les étonner, de les choquer ou de vendre des badges après. Enfin, c'est quoi le but après alors? Bon.
Alors, le vendre des badges, on vend pas de badges, hein, donc je les donne, les affiches, je les donne. C'est pas les badges qui m'ont mis des millions d'euros et qui ont financé ma campagne électorale. On va parler un peu du. Ça, c'est une question intéressante. On parlait tout à l'heure un peu de la pensée dominante. Vous vouliez me faire réagir, en tout cas avoir mes impressions sur le libéralisme, etc. C'est autofinancé. On parlait donc de travail participatif. Le travail participatif, c'est aussi. Autant c'est quelque chose, à mon avis, qui se développe énormément, qui est très avant-gardiste. On parlait un peu de Wikipédia, bon, je vais pas creuser le sujet, on n'est pas là, mais voilà, c'est intéressant de s'y pencher. Mais c'est surtout un travail qui échappe à la pensée dominante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quoi? On est salarié, on travaille pour de l'argent, on est chômeur, on est exclu de la société, on est financier, donc là, on est grand patron, donc voilà. Et nous, on est quoi? Ben on travaille, mais ça nous coûte de l'argent, quoi. Et ça nous coûte du temps, donc encore plus d'argent. Donc on a un rapport au travail qui qui ne correspond pas au discours qu'on a tout le temps. Ça ne veut pas dire que ce travail-là n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire on est les premiers à faire un travail, ça nous coûte de l'argent. Il y a plein de gens qui font des choses. Or là, du hobby, c'est un peu différent. C'est-à-dire si je fais du macramé, c'est un hobby. Donc voilà. Après, pourquoi ? Mais ces gens-là sont bien vus. Mais en tout cas, nous, on bosse, c'est un travail. Qu'est-ce que le travail artistique ? À quoi sert son temps ? À qui il est demandé ? C'est un travail. Enfin, il n'y aurait pas eu Pompidou. Ben, il n'y aurait pas eu Pompidou, point barre, on n'en aurait rien à foutre, ça manquerait à personne, il n'a pas existé. Ça, c'est le propre aussi de l'artiste, c'est d'élever les choses et de faire apparaître des choses qui sont ni demandées par personne, c'est-à-dire ni par un patron, ni par un salarié, ni par un chômeur, et ni par les marchés financiers, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est qu'est-ce qui peut pousser des choses à exister ? Et on parlait d'utopie, ça, c'est aussi une utopie, c'est de croire en ces valeurs-là, quoi. C'est de se dire que... et espérer que l'argent n'est pas moteur de tout et qu'on peut faire des choses, les porter, transpirer, mettre de l'argent qu'on a gagné, qu'on a bossé pour le mettre dedans, pour pouvoir monter un projet et le tenir à cœur parce qu'on sait qu'on y croit, et voilà quoi.
Autre petite nouveauté, vous l'avez peut-être vu, ils fleurissent un petit peu partout, ce sont des panneaux avec Pompidou dessus. Et oui, c'est en fait une initiative qui renvoie vers un site internet assez mystérieux, il faut bien le dire, où l'on retrouve de vieux slogans et de vieilles affiches détournées. Le message, c'est Pompidou, le candidat des artistes.
Vous aurez reconnu le style France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il faut dire que le temps qu'on fixe un rendez-vous aux gens qui mènent la campagne Pompidou 2012, eh bien on sait la largement fait griller par d'autres médias, des médias dominants, Nord et Clair, Les Gratuits, L'Est Républicain, j'en passe et des meilleurs. Ça buzz sur Internet. Réaction de Régis à cette rapide médiatisation.
On se retrouve sur François, Europe 1, machin, mais ils reprennent des reprises de reprises de reprises. Enfin, ils font pas du raccommodage, hein. Mais voilà quoi. Donc finalement, ils mettent leurs propres mots et puis ils réintroduisent des choses. Enfin voilà, ça me rappelle les façons dont je faisais un peu des dissertations en première ou terminale où je l'ai fait la veille et puis comme citer machin et puis en fait je sais pas s'il l'avait dit mais je trouvais ça plutôt sympa de citer Voltaire, une espèce là encore déflagration là dans les médias, ça montre ce que ça montre, ce truc buzz ou cette déflagration médiatique, cette espèce de truc, parce que ça montre quoi? Bah ça montre quand même le vide qu'il y a autour de l'élection présidentielle, ça montre aussi ce que peut être un média, c'est-à-dire le média, il ne vous parle pas de ce qui est l'essentiel, il te parle de ce que vous avez envie de parler. On ne va pas vous parler de ce qui se passe au Soudan, on ne va pas vous parler de ce qui se passe en Afrique ou je ne sais pas quoi, on va vous parler effectivement et vous surparler et vous mettre sur la toile ce qu'ils ont envie de créer, quoi.
Là, moi, je suis en train de t'interviewer, donc c'est une situation difficile pour moi parce que je devrais parler de la situation au Soudan, c'est vrai, quoi.
Alors... ah, bah, voilà, donc voilà, merci. Donc, je pense qu'on a un écho, enfin, bon, voilà, enfin, c'est pas la même presse, mais ce qui est intéressant, donc ce qui fait qu'on parasite là vraiment. Enfin, il est intéressant, par contre, super intéressant de se retrouver et assez jouissif, puisque c'était le but qu'on parle de parasitage. C'est-à-dire, on a un usurpateur qui arrive et au final, on va sur Europe 1, on va sur le web Europe 1. Machin, on se retrouve entre Corinne Lepage, un encart, monsieur, donc le président de la République Nicolas Sarkozy, et il y a Pompidou 2012 entre les deux, quoi. Enfin, ça, c'est une campagne, enfin, c'est bingo, quoi. C'est top. C'est top, non pas parce que c'est cool, on est content, c'est top parce qu'on vient d'en parler, et puis ça met en cause et ça fait réfléchir. On parlait, est-ce que les gens, c'est les provoquer ? Il n'y a pas de provocation là-dedans, enfin, on met une affiche, on se mélange dans le décor. Il ne peut pas y avoir provocation parce que les gens se posent des questions, se disent, mais vous savez qu'il est mort, enfin, voilà. Donc, mais par contre, ça pose une interrogation, ça crée de la confusion, et c'est dans la confusion qu'on réfléchit.
Régis Marie, artiste plasticien, il fait partie de ce projet participatif Pompidou 2012. Vous aurez plus d'infos sur le blog pompidou-2012.overblog.com.